J'aimerais relire avec vous les textes que j'ai lus en introduction du message de dimanche après-midi. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 5 à 7. On va aller un petit peu plus loin que ce que j'ai évoqué dimanche. Jean, chapitre 3, versets 5 à 7. C'est Jésus qui parle et qui dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, Luc 2, verset 10, on a un moment particulier où l'ange vient annoncer justement la naissance de Jésus au berger. Je ne suis pas au bon endroit. Aujourd'hui, mes anges leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est vrai que quand on reçoit cette annonce-là, quand on entend cette annonce, on imagine des parents qui apprennent la bonne nouvelle, vous allez avoir un bébé. Quelle joie! Quelle joie il y a pour des parents qui apprennent cette bonne nouvelle. Peut-être pour certains, ils attendaient depuis longtemps. La nouvelle est là, le bébé est là. Et ici, il y a à côté de cette annonce-là une grande joie. Comme on vient de le lire, il y a cette grande joie. Et cet dimanche après-midi, je présentais sous forme un peu de parabole le parallèle entre la vie, parce qu'on parle de nouvelle naissance. Je crois que si Jésus parle de nouvelle naissance, c'est peut-être pour qu'on y réfléchisse. Parce que dans la naissance, on sait comment se passe une naissance. On sait très bien que la vie n'est pas là le jour de la naissance. Quand est-ce que la vie vient? Au moment où il y a la fécondation, au moment où c'est là que la vie commence. Et donc la vie commence déjà dans le ventre de la mère, et la naissance n'est que l'aboutissement déjà d'une première vie. On est tous d'accord? Et il y a tout un parallèle qu'on peut mener entre la femme qui héberge cette vie extérieure et nous. J'ai donné quelques exemples. On voit par exemple que quand la vie commence, ça ne se voit pas. Et la femme sera la première au courant, bien sûr. Et au fur et à mesure que la grossesse va se passer, eh bien, on va le voir de plus en plus. Et ça va se voir pour beaucoup de monde. Juste à tel point que, proche du terme, tout le monde va venir poser la question, alors, c'est pour quand? C'est pour bientôt? De quoi ça parle? Ça nous parle tout simplement qu'un jour, en ce qui nous concerne, nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous croyons en quelqu'un que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais sa vie sera manifestée un jour. Et aujourd'hui, on est proche du terme. On est proche du moment où le Seigneur Jésus en personne va se révéler. Et ainsi, le chrétien qui, à l'instar de cette femme enceinte qui a laissé cette vie se développer en son sein, le chrétien qui ainsi laisse en son sein se développer la vie de Dieu, ça se voit. Ça se voit. Ça finit par se voir à un moment donné. Et ici, on a ce parallèle où il y a des premiers changements qui interviennent, la femme va être au courant et bien sûr au fur et à mesure tout ça va se voir, il va y avoir divers changements, par exemple au début d'une grossesse, une femme peut connaître des moments de maladie, de nausée, pourquoi? Parce que le corps rejette cette vie étrangère. Mais n'est-ce pas pareil quand on accepte la vie du Seigneur Jésus dans notre cœur? On a ce combat intérieur qu'il a aussi, parce que la vieille nature qui est la nôtre, rejette la nouvelle qui est là. Et elle rejette cette nouvelle nature, notre corps rejette. Et c'est ainsi que ça crée en nous un combat intérieur. Et ce combat intérieur que nous pouvons ressentir est là comme un sceau qui nous montre que oui, la nouvelle vie, elle est bien présente, elle est bien là. C'est un des signes que nous pouvons voir. la femme va commencer peut-être, pour certaines, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça peut arriver, un caractère qui change. Quand la vie de Dieu est là, en nous, le caractère aussi change. Et cette vie intérieure qui se développe amène notre caractère à changer. Il y a tout plein de parallèles qui sont là, qu'on peut faire, et je vais pas refaire la même prédication, donc je vais avancer un peu. Mais dans tous les cas, cette parabole ne suffisait pas, parce qu'il y a un côté qui n'est pas facile d'exprimer à travers cette parabole de la grossesse, de la gestation, c'est que nous sommes responsables de la croissance de cette vie. Et effectivement, la femme ne maîtrise pas la croissance du bébé qui est en elle. À l'inverse de la vie de Dieu, à l'inverse de la vie de Christ qui est là en nous, effectivement, nous sommes passés, nous avons reçu cette vie qui vient de Dieu, cette graine de la parole, nous l'avons reçue, et la vie commence en nous. On peut voir les premiers effets, les premiers signes de cette vie qui a pris sa place en nous, mais nous sommes responsables du développement de cette vie. Et pour un peu plus comprendre ce sujet, eh bien, il suffit simplement d'aller un peu plus loin et de considérer que ce bébé, eh bien, en la personne de Jésus, eh bien, ses parents ont été responsables de cet enfant qui s'appelait Jésus. Et pour Marie et Joseph, si on regarde d'un regard étranger ce qui se passe, on pourrait même se dire, mais pour Marie et Joseph, à partir du moment où l'annonce leur a été faite, je dirais que c'est plutôt le commencement des ennuis plutôt que l'inverse. Et pourtant, pour Marie et Joseph, c'était un grand sujet de joie. C'était un grand sujet de joie pour l'un comme pour l'autre. Et ce sujet de joie était tel qu'ils étaient prêts, même s'il le fallait, à payer divers sacrifices, parce qu'ils avaient cette joie intérieure, cette joie, ces parents qui vont ainsi bénéficier de l'arrivée d'un bébé dans leur vie, eh bien, c'est une joie indescriptible. Et quand on n'est pas passé par là, on ne peut pas le comprendre. Et quand on n'a pas reçu de la même manière cette vie de Dieu en nous, on ne peut pas le comprendre. On voit des personnes qui vont essayer de régler leur vie, ils voient des personnes qui voient leur caractère changer en bien, ils voient des personnes qui vont à l'église parce qu'ils aiment retrouver leurs semblables, leurs frères, leurs sœurs. Certains y voient du légalisme, ils voient des tas de choses qui sont tristes à leurs yeux, mais ils sont à des années-lumière de ce que vivent des chrétiens qui ont cette vie de Dieu en eux, parce que c'est un plaisir. C'est un plaisir de se retrouver entre frères et sœurs. C'est un plaisir d'expérimenter cette vie de Dieu. C'est un plaisir de voir en nous notre caractère changer, sans même que on ait fait quoi que ce soit. C'est Jésus lui-même qui travaille notre caractère. Bien sûr, on y met aussi notre volonté. Mais quand on considère le travail que nous faisons et celui que lui fait, il n'y a rien à voir. La vie de Dieu se fait. Et c'est un réel bonheur pour nous que de nous consacrer à cette vie qui commence, de la même manière que des parents vont devoir se consacrer à l'enfant qu'ils vont accueillir. C'est la même chose strictement. Et cette consécration, elle se fait avec un cœur. En fait, l'arrivée du bébé se prépare avec le cœur joyeux. On prépare la chambre, on choisit le lit, etc. Les parents sont tout heureux des dépenses supplémentaires qu'ils doivent faire pour ce petit bébé. C'est une grande joie. C'est une grande joie. Et le chrétien, il se consacre, c'est vrai. Il sert, c'est vrai. Mais quelle joie est là à l'intérieur. Et ici, nous sommes en tant, à l'image des parents, on va décaler un peu la parabole. Il ne s'agit plus de la grossesse. Maintenant, il va s'agir des parents qui sont responsables de l'enfant, qui vont prendre soin de lui. Ils ont toute une responsabilité vis-à-vis des parents pour que cet enfant puisse bien grandir. Et en ce qui nous concerne, quand on reçoit cette vie de Dieu en nous, eh bien, nous sommes aussi responsables de la croissance de cette vie. C'est Jean-Baptiste qui disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Est-ce que ça ne correspond pas quelque part à la vie de parents qui accueillent un enfant ? Eh oui. Là où le couple peut-être vivait pour lui, à un moment donné, il va devoir apprendre à vivre pas que pour lui. Et le petit bébé qui arrive va prendre la priorité, va tout changer. Mais c'est un joyeux bouleversement. Les parents sont bien heureux de vivre ces choses. Et ils sont bien heureux de pouvoir mettre en premier ce petit être qui arrive, de mettre en premier cette vie qui va se développer. Luc nous rapporte, j'aimerais qu'on puisse regarder Jésus quand il était tout petit. Il y a un verset que Luc nous donne, chapitre 2 de l'évangile de Luc, au verset 40. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc on voit un petit enfant, Luc nous en donne une description brève de son enfance, et on y voit quelque part aussi dans ce verset, c'est en filigrane, mais on imagine que pour qu'ainsi l'enfant puisse bien se développer, les parents ont aussi fait leur travail. Quel est le rôle des parents envers les tout-petits? Qu'est-ce qu'on exige de l'adulte pour un enfant? Ça me fait penser à toute personne qui donne son cœur au Seigneur. Peut-être avons-nous amené quelqu'un une fois à l'Évangile et cette personne a été amenée à recevoir l'Évangile dans son cœur. Nous qui l'avons amené, on a un devoir, on a une responsabilité envers cette personne que nous avons amenée. On a un témoignage à montrer parce que cette personne vient d'accepter la parole, certes, mais elle est encore fragile, comme un enfant. Qui est dans cette fragilité. Il va falloir l'entourer. Il va falloir lui donner de l'amour. Il va peut-être falloir être patient. Il va falloir la nourrir aussi. Bref, il va falloir l'aider dans sa croissance. Oui, c'est le Seigneur qui fait ces choses. Qui sont les parents? C'est, dans cette parabole, c'est à la fois nous-mêmes qui sommes responsables de la vie qui est là en nous, mais c'est aussi les frères et sœurs qui sont aussi responsables les uns des autres, des enfants qui leur sont confiés. De quoi suis-je l'image? Est-ce que je suis un père, une mère, qui ne fait pas attention à ses enfants, qui va les choquer, qui va les scandaliser? Ou est-ce que je serai ce bon exemple envers ces enfants que j'ai pu amener au Seigneur? On va voir deux, trois petites choses au niveau du rôle des parents. Les parents nourrissent l'enfant. Cette nouvelle vie qui commence, rappelons-nous, j'ai reçu la vie de Dieu, j'en suis le responsable aussi. Donc je suis responsable de nourrir cette vie intérieure, cette nourriture qui va aider cette vie intérieure à se développer. Les parents vont assurer le bien-être de cet enfant, et ainsi que cette vie a commencé tout juste à éclore en moi, il va y avoir besoin d'y appliquer un grand soin pour que cette vie puisse elle-même s'exprimer, qu'elle puisse avoir toute sa place, que je puisse avoir des moments de qualité pour que cette vie puisse tranquillement se développer. Les parents passent du temps avec l'enfant, et là il est question de la relation que nous avons avec cette vie intérieure, avec le Seigneur lui-même, qui établit par sa présence, par son esprit, sa vie en nous. Les parents protègent l'enfant. Et il nous faut aussi faire attention à ce que la vie que nous avons reçue, cette vie qui grandit, eh bien, de par notre comportement, de par nos choix, on n'aille pas faire du mal à cette vie. Vous savez qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu. Et si on attriste l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul a aussi laissé cette recommandation, n'éteignez pas l'Esprit, cette vie. L'Esprit en nous, l'Esprit de Dieu en nous, c'est ça la vie que nous hébergeons. Nous pouvons attrister l'Esprit Saint. On peut éteindre l'Esprit Saint si on commence à faire des choses qui ne lui permettent pas de prendre la place qu'il doit prendre en nous. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Un chrétien qui est né de nouveau, qui expérimente cette vie de Dieu, il va y avoir des changements, c'est obligé. Certaines habitudes vont peut-être disparaître, et de nouvelles vont apparaître. Mais ce sont des choses normales, comme des parents qui accueillent un enfant. Concernant Jésus, on voit que les parents n'ont pas été un frein à sa croissance. Ici, on voit d'abord que Jésus, dans ce verset 40, il est question de croissance. L'enfant croissait. C'est peut-être ce que vous avez dans votre version. Dans ma version, j'ai lu, l'enfant grandissait. Il grandissait. Il est question de, là, c'est le seul endroit où il est question dans ce verset, et on verra celui qui est un peu plus loin, c'est le seul endroit où il y a allusion à la croissance physique de Jésus. Il grandissait. Autrement dit, il était bien nourri. Il était dans un environnement favorable. Il grandissait physiquement. Est-ce que, en ce qui me concerne, depuis que j'ai reçu cette vie de Dieu, depuis que l'Esprit de Dieu a établi domicile en moi, est-ce que j'ai pu observer aussi cette croissance? Est-ce que j'ai pu observer que oui, dans ma vie, eh bien, il avait plus de place que le jour où je l'ai reçu? Est-ce qu'autrement dit, je le nourris comme il faut? Qui est-ce que je nourris d'ailleurs? Est-ce que je veille à nourrir la vieille nature qui n'est pas compatible avec cette nouvelle vie qui est en train d'éclore? Ou est-ce que je nourris cette nouvelle vie? Qu'est-ce que je fais? Qui je nourris? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que signifie cette parole? C'est que pour que lui puisse croître, il faut que ma nature, ma vieille nature, elle diminue. Autrement dit, je dois nourrir ma nouvelle vie, mais je dois ne plus nourrir mon ancienne. Et c'est ainsi seulement que je vais pouvoir grandir, que je vais pouvoir croître, que la vie de Dieu va pouvoir ainsi grandir en moi. Cette naissance, elle vient d'en haut. On dit c'est la naissance d'en haut. Une vie qui vient d'en haut a besoin d'une nourriture qui vient d'en haut. C'est mathématique. Quelle est la nourriture qui vient d'en haut? Jésus, qui dit lui-même qu'il vient d'en haut, il dit « Je suis le pain de vie ». C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Ainsi, pour nourrir cette vie, je dois me nourrir de la parole même de Jésus, de cette parole, celle que nous venons de chanter, cette lumière sur notre sentier, celle qui va nous permettre de prendre de bonnes décisions, celle qui va nous permettre de connaître Dieu, de savoir qui il est. Et plus je vais apprendre à le connaître, et plus cette vie va pouvoir prendre de la place en moi. Dans ce verset 40, il est question de Jésus qui se fortifiait. Je ne vais pas revenir sur la prédication de dimanche matin, mais c'est exactement la même chose. Quand il est question de se fortifier dans la parole de Dieu, j'ai noté deux références. C'est 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, où l'apôtre Paul nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ». On avait vu dimanche dernier, dans la référence de Daniel 10, 19, je crois, si mes souvenirs sont bons, que Daniel s'est fortifié comment? En écoutant l'ange lui parler. Donc, je me fortifie par l'écoute, pas en parlant, pas en faisant. Je me fortifie en écoutant. Il y a un texte dans la parole qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. L'apôtre Paul écrit aussi aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Autrement dit, quand Jésus se fortifiait, il n'est pas question de ses muscles qui sont devenus plus forts. Il est question de son homme intérieur, bien qu'il soit petit dans ce verset, il était encore tout petit, et pourtant, ce verset résume les 12 premières années de sa vie. Et dans ce verset, on voit que Jésus va s'appliquer à écouter. C'est exactement la même chose. il va s'appliquer à écouter. C'est ainsi que son homme intérieur va pouvoir se fortifier. Qu'est-ce qu'il va écouter ? Il va écouter la parole de Dieu. Jésus, il a cité sans problème les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'il les connaissait bien. Et quand il va avoir 12 ans, où est-ce qu'il va aller ? Écouter les maîtres. Jésus voulait recevoir, il voulait écouter. Et en même temps, tout petit garçon qu'il était, il s'intéressait aux choses qui plaisaient à Dieu. On imagine facilement les petits enfants qui allaient se promener dans les champs, qui regardaient les petites bébêtes, les petites choses, les choses de l'enfance, certes. Mais Jésus, il savait que derrière tout ce qu'il pouvait voir, tout ce qu'il pouvait côtoyer dans ce monde, c'était sa parole même qu'il avait créée. Et il a fini par en avoir conscience. Je ne sais pas à quel âge il en a eu vraiment conscience. Mais il l'a reçu. Et au début, quand il a dû regarder comment étaient disposés, j'ai fait allusion à quelque temps, les étamines d'un tournesol, qu'il a vu que c'était bien mis, il devait être émerveillé. Quand un enfant grandit, dans ses premières années, quand il commence à voir les choses de la nature, il s'émerveille. Je me rappelle de ma fille aînée, elle s'émerveillait de tout. Quand je la sortais dehors se promener, c'était des paillettes partout. Elle s'émerveillait de tout, c'était impressionnant. Et c'est ainsi qu'on peut imaginer peut-être le Seigneur qui, regardant la nature, apprenait. C'était ce que Dieu avait demandé à l'homme à l'origine, d'étudier les animaux pour pouvoir leur donner un nom. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça quand il était petit ? On peut imaginer qu'il a regardé ces choses. L'apôtre Paul écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Est-ce que le Seigneur lui-même, quand il était petit, n'a pas vécu ce texte ? Considérer la création de Dieu. On peut imaginer qu'il a observé avec application, on peut imaginer qu'il a même réfléchi quand il s'est rendu compte qu'à l'âge de 8 ou 9 ans, pour qu'une plante pousse, il fallait mettre une graine dans la terre. Peut-être qu'il s'est dit, tiens, peut-être qu'un jour, en ce qui me concerne, je vais vivre la même chose, on ne sait pas. Mais ces lois de la nature, il les a apprises, il les a regardées, il y a réfléchi. Et qui sait si déjà tout petit, déjà commençait à naître en lui le destin qui était le sien. Il avait cette ouverture d'esprit et il est vite devenu un enfant sage. Pas au sens d'un enfant qui ne fait pas de bêtises. C'est le cas, c'était le cas. Mais un enfant qui prenait les bonnes décisions dès son plus jeune âge. Un enfant qui toujours avait ce discernement pour choisir le bien plutôt que le mal. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la vertu qui m'amène à être capable de choisir le bien plutôt que le mal. Et Jésus, en ce qui le concerne, il était, dans ce verset, rempli de sagesse. Quand on réfléchit, un enfant rempli de sagesse. On l'a chanté, mais je l'avais noté dans mes notes. « Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et le Seigneur lui-même, s'il y avait quelque chose qui devait serrer contre son cœur, c'était bien sa parole. Sa parole. Il devait connaître les versets par cœur. Il a dû apprendre la Torah comme tous les Juifs de l'époque et il la connaissait par cœur. Et il aimait se la repasser. C'est obligé. Et non seulement il se la repassait dans son cœur, mais en plus, comme il était d'en haut, il avait l'éclairage nécessaire pour la comprendre comme jamais enfant ne pouvait la comprendre. C'est pour cela que quand il se retrouve devant les maîtres, il impressionne tout le monde, il émerveille tout le monde plutôt, parce qu'il ne cherchait pas à impressionner. Il avait juste des bonnes questions. Des questions qui faisaient réfléchir. Et quand on lui reposait la question et puis qu'il donnait une réponse, ses réponses étaient aussi intelligentes. Et au point que les gens n'en revenaient pas de ce petit enfant qui avait cet esprit si vif et si intelligent, il grandissait naturellement. Et la sagesse qu'il avait était liée à la connaissance qu'il avait de Dieu. C'est ainsi que, comme je disais dimanche matin, il se fortifiait par l'écoute de la parole, par le regard qu'il avait sur Dieu et sur les choses qu'il avait faites. C'est ainsi qu'il avait une sagesse. Le fait de se fortifier ne permet pas de conserver le courage, comme je disais dimanche matin, mais permet aussi d'avoir ce discernement qui nous permet d'agir en toute sagesse. Celui qui agit d'une manière sage, il sera aussi au bénéfice de cette sagesse. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Jésus, quand il parlait, il faisait du bien. La sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça, Jésus l'avait compris, bien sûr. Et il avait fait de Dieu son plus grand trésor. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser aussi, nous, ce soir, que si on s'applique à connaître Dieu, si on s'applique à avoir un temps de qualité dans la lecture de la parole, dans ce temps où on va pouvoir chérir cette vie que nous avons reçue à l'intérieur, elle va grandir. C'est notre responsabilité que de la faire grandir. Ensuite, on a un autre texte dans Luc, toujours dans Luc, au verset 52. Luc nous parle de Jésus plutôt à 12 ans. Il y a des différences avec l'autre. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus a 12 ans. Il y a toute une histoire des parents qui avaient perdu Jésus, qui étaient restés dans le temple. Je ne vais pas en parler ce soir, ce sera pour une prochaine fois. Mais ici, on voit quand même que, là encore, Jésus était au bénéfice de ses parents, qui l'avaient laissé grandir aussi. Les enfants sont petits, ils ont besoin de beaucoup de soins, mais plus les enfants grandissent, et plus ils prennent leur autonomie. Et c'est tout à fait logique que des parents, au fur et à mesure que l'enfant grandisse, que les parents s'effacent. Les parents vont donner des conseils, mais ne pourront plus faire les choix à la place de leurs parents. Le même texte que j'ai cité tout à l'heure, « Il faut qu'ils croissent et que je diminue », n'est-ce pas un texte qui est vrai aussi pour nos enfants ? Il faut qu'ils grandissent, nos enfants. On ne va pas continuer à les infantiliser quand bien même ils ont dépassé les 18 ans. Ils sont grands. Et moi, je vais diminuer et je vais les laisser grandir. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on les instruit, on les éduque, mais on leur fait comprendre que c'est à eux de faire leur propre choix. C'est à eux de se déterminer et c'est eux qui paieront les conséquences de leur propre choix, en bien ou en mal. Nous, on est là pour donner des éclairages en tant que parents, mais on ne peut pas faire les choix à leur place, sachant que Dieu lui-même n'a pas imposé ses choix aux hommes. Dieu lui-même nous a laissé, c'est la limite qu'il s'est donnée, de nous laisser libres de nos choix. Nous qui sommes parents, on est dans la même situation. Attention à ne pas choisir à la place de nos enfants, à imposer des choix qui sont les nôtres plutôt que les leurs, parce que on empiète sur une liberté qui n'est pas la nôtre, que Dieu lui-même ne s'est pas permise de prendre. C'est ainsi que la croissance se fait. Il nous faut, dans la foi, laisser nos enfants grandir, laisser cette vie à l'intérieur grandir, parce que c'est la même chose. Cette vie-là, à l'intérieur, si on la laisse grandir, elle va aussi nous conduire. Elle va nous permettre, justement, de vivre la vraie liberté, parce que les conseils qui viennent de Dieu, de cette vie qui prend de la place en nous, ce sont des bons conseils. Et en laissant cette vie s'exprimer en nous, c'est ainsi qu'on pourra vivre cette parole que Paul écrivait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que cette vie a pris sa place. Et il lui faut lui laisser toute la place. Jésus grandit en sagesse et en stature. Ici, il est question encore de la sagesse. Pourtant, on a lu au verset 40 qu'il était rempli de sagesse. Et pourtant, on voit un peu plus tard qu'il grandit toujours en sagesse. Mais c'est tout simplement qu'au fur et à mesure que je grandis, et j'ai de plus en plus de liberté, j'ai de plus en plus de choix, et il va falloir prendre de plus en plus de décision. Et Jésus, malgré tout, avec son âge qui grandissait, eh bien, sa sagesse grandissait aussi. La sagesse, je le rappelle, ce n'est que la face émergée d'un iceberg. C'est la conséquence logique de tout un choix de vie que de se focaliser sur la connaissance de Dieu, de se focaliser sur qui est Dieu, sur sa parole, ce qu'il dit, et toute l'importance qu'on donnera à Dieu dans notre vie, toute l'importance qu'on donnera à cette vie intérieure qui se développe, nous permettra d'être sages en toutes circonstances, d'avoir cette sagesse d'en haut. Et en ce qui concerne justement le fait que nous ayons grandi, Jésus a grandi. 12 ans chez les Juifs, c'est l'âge de la maturité religieuse. C'est pour ça qu'ils fêtent la bar mitzvah, comme on dit. C'est l'âge où, en tant qu'être, ils avaient le libre choix de choisir ce qu'ils voulaient faire d'un point de vue religieux. Ils étaient considérés comme des adultes. C'est d'ailleurs pour cela même que Jésus va faire son premier choix religieux, à savoir de rester dans le temple, pour être enseigné. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, on acquiert de la responsabilité. Quand je commence à grandir d'un point de vue spirituel, que je commence à laisser place à cette vie, eh bien, je suis moi-même en face de devenir moi-même un maître, entre guillemets, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur écrivait, vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes collés. Eh bien, si je laisse cette vie grandir, eh bien, logiquement, je vais devenir un maître et je vais pouvoir ainsi être un exemple, être un témoignage pour ceux qui sont encore petits. Et c'est ainsi que la vie suit son cours. Il y a un avertissement du Seigneur qui dit que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Le témoignage que nous avons en tant que maître, en tant que personne peut-être ayant plus d'expérience, ayant laissé cette vie grandir en nous, il va avec tout le poids de la responsabilité qu'est la nôtre quand des personnes nouvellement converties nous regardent. Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je suis vu de mon frère, de ma sœur qui est plus jeune dans la foi? Est-ce que je suis un exemple ou pas? Il y a cet avertissement sur le fait qu'il nous faut faire attention à ne pas scandaliser. Jésus, lui, il croissait. Et sa sagesse faisait que tout ce qu'il faisait était bon. Et son témoignage était bon. Il grandissait en sagesse et en stature. La stature, contrairement à ce qu'on peut croire, elle ne parle pas de stature physique. Je pense que tout le monde sait très bien qu'un homme n'est pas un homme à 12 ans. Donc la stature physique, ce n'est pas à 12 ans qu'un homme l'acquiert. De quoi s'agit-il? Cette stature, elle nous parle de maturité. Jésus, c'est pour cela qu'il était considéré comme un adulte concernant les choses spirituelles. Il était mature. Sa sagesse était en train d'atteindre son plein développement. Il commence à être lui-même autonome dans ses choix par rapport à sa vie spirituelle. Et cette maturité, on va voir que son premier choix va concerner quoi? Le royaume de Dieu. Il va s'asseoir au banc des écoliers, écouter les maîtres rabbins de l'époque. Et il va vouloir recevoir la parole de Dieu. C'est son premier choix en tant qu'adulte. Il cherche le royaume de Dieu. Il l'a dit lui-même, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Je terminerai là-dessus. Le Seigneur, en différence avec le verset précédent, on voit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, de par sa sagesse, de par ce qui émane de lui, émerveille tout le monde. Il devait émerveiller ses parents, il devait émerveiller son entourage, il va émerveiller les maîtres de l'époque. Par ses questions, il va briller, par sa sagesse, son intelligence. Et en ce qui nous concerne, on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que les autres pense de moi. Dans ce verset, il y a quelque chose qui est nouveau qui apparaît, qui n'apparaissait pas dans l'autre, c'est la dimension des autres. Quand on grandit spirituellement, quand cette vie que Dieu a plantée en nous, quand elle prend sa place, quand elle grandit, quand on est tout petit, on pense à nous. Les chrétiens qui viennent de se convertir, il y a cette vie qui est toute petite encore, il y a encore ce côté charnel qui est là, mais la foi qui commence, c'est toujours la foi qui nous concerne, nous. Comme un enfant qui naît, ce qui l'intéresse, ce qui se ramène à lui, c'est moi d'abord. Et un chrétien qui se convertit, c'est la même chose. Quand il va prier le Seigneur, il va prier pour ses petits soucis, pour ses choses. Et c'est bien de le faire. Mais ça montre quelque part un manque de maturité. Quand on commence à être adulte, on n'a plus que soi en visibilité, mais on regarde un peu autour et on commence à penser aux autres. Or, Jésus, au moment où on parle de sa maturité spirituelle, apparaît comme par hasard le fait qu'il apparaissait comme étant gracieux, une belle stature, donc la maturité devant Dieu et devant les hommes. Les hommes reconnaissaient en lui quelqu'un qui était adulte. Jésus lui-même regardait aussi la maturité spirituelle, avait le regard sur ceux qui étaient autour de lui. C'est la marque du chrétien qui a laissé cette vie grandir et qui commence à vivre ce commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Au début, on a plus de mal à le vivre parce qu'on est tourné sur nous. On est tourné sur nous-mêmes, sur notre propre évolution, sur nos propres progrès. Seigneur, aide-moi dans mon caractère, aide-moi par rapport à mes inquiétudes, aide-moi par rapport à ceci. Mais ce sont des choses qui sont centrées sur nous. Mais plus on grandit, plus cette vie de Dieu prend de la place en nous, et plus finalement notre cas personnel nous importe moins, et c'est plus le cas de ceux qui nous entourent qui va nous inquiéter. C'est la marque de celui qui a grandi. C'est la marque de celui qui est devenu, de jeune qu'il était, est devenu un adulte. Et c'est ainsi que Jésus avait compris qu'il ne vivait pas pour lui, il vivait pour les autres. C'est Jésus qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, il le vivait avant même de passer sur la croix. Eh bien, il vivait ces paroles. Il vivait dans un renoncement total. C'était la marque du fait que Jésus avait grandi. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce soir à cette vie qui est ainsi, qui est née en nous. Si on devait se donner un âge, quel âge avons-nous ? Quel âge avons-nous ? Cette vie qui est en nous, comment a-t-elle grandi ? Est-ce qu'elle grandit toujours d'ailleurs ? Ou est-ce qu'elle, c'est une plante toute rabougrie parce que je m'en suis jamais occupée? Ou est-ce qu'elle a pu prendre racine et qu'elle a pu s'élever, peut-être même porter du fruit? On est tous à un certain âge. Et notre âge physique n'a absolument rien à voir. Même le nombre d'années depuis notre baptême n'a rien à voir. Il y a des personnes, ils ont 40 ans de baptême, de conversion, et ils ne sont que des petits bébés. Parce qu'ils sont sans cesse centrés sur leurs petits soucis et leurs petits bobos. On peut demander à Dieu du secours dans ces choses, mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus que cette vie-là. Le Seigneur nous appelle à grandir. Il nous faut amener cette vie-là à son plein développement. Et comment cette vie va pouvoir se développer en nous? Je reviens sur ce que j'ai dit, mais c'est la connaissance de Dieu qui nous permettra à cette vie de prendre toute sa place. Le Seigneur nous appelle à ces choses. Quel âge avons-nous ? Quel âge avons-nous ? Est-ce que nous sommes de bons parents, entre guillemets, de cette vie ? Est-ce que nous en prenons soin ? Comme Joseph et Marie ont pris soin de Jésus, cette responsabilité, suite à cette expérience, suite à cette annonce que Jésus allait naître, cette grande joie qui a été la leur, la responsabilité qu'ils ont prise avec joie, cette consécration qu'ils ont prise avec joie, en ce qui nous concerne, est-ce que je suis consacré au développement de cette vie intérieure qui a été semée en moi? Est-ce que je suis prêt à abandonner certaines choses pour que cette vie puisse grandir? Si on parallélise avec la parentalité. On sait ce que ça donne quand on voit des enfants qui sont en manque de leurs parents. On sait quand on voit des enfants qui ont mal grandi, on sait qu'ils ont été mal éduqués. Nous avons une responsabilité envers l'état de croissance de la vie que Dieu a semée en nous. Ce sont nous les responsables. C'est à nous d'apprendre à connaître Dieu pour que cette vie puisse prendre sa place. C'est à nous de veiller à ce que notre vieille nature diminue pour que cette vie de Dieu grandisse en nous. Est-ce qu'on demande au Seigneur son aide ? On va se recueillir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Parce qu'à l'image de ces parents qui accueillent cet enfant, cette joie d'avoir un enfant, cette joie qui est même expérimentée le jour où on est réconcilié avec toi, le jour où on a fait la paix avec toi, cette paix que tu nous fais sentir même, cette joie qui habite notre être tout entier, le jour où on comprend que tu étais mort à la croix pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment où nous tous, nous avons compris ces choses par ta grâce. Ce jour où cette révélation, tu nous l'as fait comprendre, tu nous as ouvert les yeux, nous te disons merci. Mais Seigneur, nous te demandons ta grâce pour que cette vie qui ainsi était semée en nous, nous puissions travailler à ce qu'elle puisse grandir. Nous puissions travailler à ce que nous-mêmes, nous puissions devenir aussi des adultes spirituellement. Seigneur notre Dieu, tu nous vois tels que nous sommes. Tu connais notre cœur. Tu sais où nous en sommes. Seigneur, nous voulons venir devant toi, te demander pardon si quoi que ce soit dans notre vie faisait entrave à ce que cette vie puisse se développer. Et nous te demandons ta grâce pour que tu puisses nous aider à nous centrer vraiment sur les choses principales. Oui, cette vieille nature, elle va rester sur cette terre. Ce corps n'est que poussière et il retournera à la poussière. Que nous passions par la mort ou par l'enlèvement, ce corps va rester là. Seigneur, nous attendons ce jour glorieux où nous arriverons à pouvoir te voir réellement de nos propres yeux. Béni sois-tu pour ce jour que tu as préparé d'avance. Et nous te demandons ta grâce pour que d'ici là, dans nos cœurs, tu nous permettes d'avoir ce désir de nous préparer à te rencontrer. Merci pour ta grâce et pour tes bienfaits de chaque jour. Nous te disons merci. Je te prie ce soir, Seigneur, pour que tu puisses raccompagner chacun aussi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs. Aide-nous à être sérieux avec ta parole, à toujours plus te connaître. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.